Give me a C!
Mais il n'y a pas la lumière rouge ?
Je sais pas s'il y a la lumière rouge, mais alors il y a les lumières rouges qui s'allument sur l'enregistreur là. Over,
génial.
Over, volume over. voilà. Il n'y a pas la lumière rouge. Ben non, écoute,
c'est la lumière rouge. Chers auditeurs, il n'y a plus la lumière rouge dans le studio, donc je vais plus savoir quand je dis des conneries. Non, enfin, je veux dire. Bref, vous avez compris.
Je peux te donner une ruse pour savoir. c'est tout le temps.
Non, enfin, quand j'ai la bouche fermée, c'est...
Oui, mais tu les penses.
Ah ouais, c'est vrai.
N'oublions pas que nous communiquons souvent par télépathie avec Tommy Boy, et nous communiquons aussi par télépathie avec nos auditeurs. Mm. Ils sont en train de m'envoyer des messages. Mais fermez-la, envoyez la musique, parce que franchement, c'est... Et donc, c'est les bébés dinosaures, votre émission 70 sur Canal Sud 92.2.
Et, le micro de la nécro.
Voilà. Eh ben oui, parce que c'est un peu de nos spécialités. Bah, nos héros tombent les uns après les autres.
Voilà, on en a raté une.
C'était... On en a raté pas mal, je pense. Mais ouais,
et pourtant, on n'en rate pas une, mais
une
là, si.
À laquelle on aurait pu penser.
Mais, ouais. Donc, Alan Lancaster, qui est mort fin septembre, je crois. Alors, c'est Louis Fine qui nous l'a signalé. Bah, on a mis un moment à se retourner et à réagir. Et donc Alan Lancaster était le bassiste de Status Quo dans la grande époque. C'était aussi quelqu'un qui s'est fâché, mais très très fort avec les autres. Surtout, enfin par Peter aussi, et deux guitaristes, parce que John Coughlan, le batteur, a été complètement déprimé et a été viré du groupe assez tôt, au début des années 80. Et Lancaster s'accrochait un peu, mais il a fini par se brouiller. Je crois qu'ils n'étaient pas d'accord sur les morceaux qu'il fallait passer. Il avait un côté plus hardos que les autres. Et il s'est barré en Australie, où il a fait un faux status quo. Du coup, ils se sont fait des procès. Enfin, bon, bref, ils ont fini par se réconcilier. En 2013, ils ont fait la tournée de retour des Frantic Four. Mais,
c'est une réconciliation, comment dire,
oui, je crois, négociée âprement, oui.
Voilà.
Probablement.
J'imagine.
Il est reparti en Australie et c'est là qu'il a décédé cette année. Donc, on va s'écouter quand même un des morceaux de Lancaster. Alors, il en a fait beaucoup dans l'album Quo, qui était celui avec lequel j'ai découvert Status Quo et qui flattait mon côté hardos, il faut le dire, à l'époque. Et... ils sont tous co-signés avec Parfit, mais ouais. on sent la patte de Lancaster. Et donc on s'écoute, comme la dernière fois, il y a quelques années, en 2017, quand Rick Parfit est mort, on s'est passé aussi en hommage un morceau signé Parfit Lancaster, on va en prendre un autre. Et donc on va prendre Don't Think It Matters. We'll
that I can. I've been working all night, digging up what through the night. Woman, can't you understand?
Donc, en hommage à Alan Lancaster, le bassiste, qui est mort il y a un mois, c'est ça, quelque chose comme ça. Un petit peu plus, peut-être.
Un mois et demi.
Un mois et demi, dit Tommy Boy. Et donc, un morceau signé Lancaster Parfit, c'est ça.
Voilà, c'était signé Lancaster Parfit, comme beaucoup de morceaux, comme Backwater, comme Drifting Away, qu'on s'est passé plusieurs fois, enfin, des choses comme ça.
Eh bien, on va revenir aux Hollywood Brats, sans transition. C'est les Britanniques aussi, on va dire, qui seront un de mes fils rouges de la soirée, parce que un hommage aux Hollywood Brats et aux Boys vient de sortir. Un double album. Ce qui est amusant, c'est qu'il devait sortir il y a 20 ans. Mais il est resté dans les placards et puis en 2020, pendant le confinement, le gars qui avait mis sur pied ce projet, il a dit bah, « Allez, est-ce que si je le fais ?» et tout. Enfin, et il a ressorti son tribute avec des groupes donc, qui étaient des groupes qu'on passait à 10 hits il y a 20 ans, tu vois, en 2000. Alors on y retrouve, il y en a qui ne sont pas très connus, mais on y retrouve par exemple Jeff Dahl, on y retrouve Freddy Links, les Street Walking Cheetahs, Aero Beach, des trucs de ce genre-là. Et les Trash Brats, par exemple. Donc, on s'écoutera tout à l'heure une reprise d'un morceau des Hollywood Brats par les Trash Brats. On va s'écouter l'original, là. C'était quand même... Ça fait un petit coup de nostalgie, tu sais, de réécouter ces groupes et ce qu'ils avaient enregistré il y a 20 ans. Alors, la plupart d'entre eux ont disparu, bien entendu. Et certains de ces morceaux étaient quand même sont sortis après. C'est-à-dire qu'une fois que les groupes ont appris que le tribute ne sortait pas, certains comme Jeff Dahl par exemple ont sorti leur reprise sur d'autres supports. Jeff Dahl, il a sorti sur ses compiles hommage au glam, tu sais. Donc une certaine partie de ces morceaux sont déjà sortis, mais une bonne partie sont restés inédits. Donc on va revenir un peu aux Hollywood Brats. Alors rappelons que c'est un groupe un peu maudit qui a eu une existence très éphémère, qui a sorti un album mais qui n'est paru que en Norvège. Et il est paru dans le reste du monde bien des années après. Il a été enregistré entre fin 73 début 74. Il est paru en 75 en Norvège, donc. Sur un gros label, mais je ne sais plus quel label, mais la branche norvégienne. Et il est sorti, je crois que c'est en 80 ou quelque chose comme ça, de manière un peu plus internationale. C'est leur seul et unique album. Cette couverture, celle que nous on connaît, parce qu'il a été réédité quand même depuis, c'était pas la couverture d'origine. Hein. Il avait une couverture très différente et beaucoup moins jolie d'ailleurs. À l'origine sur cette version norvégienne. Donc le groupe a sorti ce disque, mais avec difficulté, il a splitté tout de suite, et deux d'entre eux ont ensuite formé les Boys. Alors eux, quand même, 4 ou 5 albums, je ne sais plus, et une certaine notoriété quand même. Les Boys ont eu un peu plus de succès. Et ça poursuivait un petit peu l'œuvre des Hollywood Brats, certains morceaux étaient en commun. Mais les Hollywood Brats c'était un peu plus glam 70s, proto-punk, c'était un peu les New York Dolls britanniques, pour simplifier, on va dire. un grand album donc, mais hélas passé inaperçu à l'époque, et un grand morceau qui concluait le disque qui s'appelle Sick on You, qui sera repris par les Boys après. Voici la version Hollywood Blatz, donc celle de 74, et on s'écoutera une reprise de ce morceau tout à l'heure. Les Hollywood Blatz, on l'a déjà passé au moins 3 ou 4 fois dans les bébés dinosaures, hein, j'avoue.
You've been with me 6 weeks. Well, that's it.
Il y a une petite touche de délicatesse pour conclure ce morceau assez sauvage quand même. On sent que le chanteur a écouté hip-hop aussi. Hein. C'était Sick on You, c'était donc la version des Hollywood Brats sur leur premier unique album. Enfin, unique, pas tout à fait. Nous y reviendrons tout à l'heure.
Oui, il y a eu d'autres enregistrements de fait. Et ouais, écoute, on va s'écouter un deuxième album d'un groupe qui n'a fait que deux à sa grande époque. Lui aussi, c'était Shaking Streets, un groupe français, mais avec un guitariste américain sur ce deuxième album, puisqu'ils avaient acquis comme guitariste Ross the Boss,
ah, c'est pas rien.
L'ex-Dictators, à la place de, comment il s'appelait, Armic ou Amic Tigrane. Amic Tigrane, qui vit à Toulouse maintenant. Hein.
Ah, d'accord.
Ah oui, j'ai rencontré quelqu'un qui le connaît, bon, et qui essaie de lui faire raconter son histoire.
Ah, il y a sûrement de quoi dire.
Oui. Voilà, c'est sûrement un vaste projet parce que Amic Tigrane est quelqu'un qui a fait plein d'autres groupes avant, qui a dû en faire d'autres après. Mais là, il n'est plus.
Et Ross de Boss ensuite a fini dans Manowar.
Eh oui.
oh là là.
Il n'a pas fini dans Manowar, enfin, il est revenu aux Dictators après.
Oui, heureusement.
Voilà. Et donc ce deuxième album est paru en 1980. Il n'a pas de titre. Donc Shaking Street, leur premier album s'appelle Vampire Rock, est sorti en 78, et le deuxième s'appelle Shaking Street tout court, est sorti en 80 sur CBS avec diffusion aux États-Unis et tout tournée américaine. Bah, ça n'a pas suffi à les rendre célèbres aux États-Unis ni en France d'ailleurs, ce qui est dommage parce que c'était pas mal du tout. Et avec le renfort de Ross the Boss, le son s'était musclé par rapport au premier album. Et c'était un très bon album de rock énergique qui peut-être pas arrivé à l'époque qu'il fallait parce qu'en 1980 c'était pas la mode. Et donc on s'écoute un des morceaux, on s'en écoutait d'autres avant, mais en voici un qui n'est jamais passé au Bébé Dinosaure, il s'appelle Soul Dealer. It's because
Shaking Street, voilà, ce morceau hard rock un peu générique quand même, là, celui-ci. Là.
Oui, oui, mais très bien troussé. Sol Dila.
Avec Rod de Boss à la guitare, donc.
Voilà.
Eh bien, on a. Halloween est passé, donc on a changé de groupe. Comment peut-on appeler ça ? Notre groupe annuel, notre groupe fétiche pour l'année.
Groupe de l'année.
Notre groupe de l'année. Et donc, après une longue réflexion, effectivement, ce sera Creedence Clearwater Revival. Un groupe quand même qui a eu une carrière assez courte finalement, sous ce nom-là en tout cas, mais qui a sorti quelques albums totalement énormes, quoi, les uns après les autres, avant de faiblir un peu sur la fin, et de finir par splitter vers 72. Fin 72, début 73. Mais on pourra explorer quand même la carrière solo de John Fogerty, qui a fait quand même pas mal de choses par la suite. Et puis on pourra explorer, c'est un petit peu par là finalement que je vais commencer, par ce qu'ils ont fait avant. Alors, quand ils sont sortis leur premier 45 tours sous le nom de Creedence Clearwater Revival, donc, c'était en 68. Mais le groupe, enfin les quatre membres étaient déjà assemblés au sein d'un même groupe depuis 61. Et ils avaient commencé sous le nom de Tommy Fogerty and the Blue Velvets. 3 45 tours, je crois, ou 2. C'était Tom Fogerty, le frère aîné, qui était le leader à ce moment-là. Et puis ensuite, ils se sont appelés les Gollywogs, parce que leur label trouvait que ça sonnait mieux, enfin que c'était plus facile à retenir, ou quelque chose comme ça. Et là, ils ont sorti plein de 45 tours, mais plutôt pas mal, dont on parlera, je pense, tout au long de cette année. Et parmi ces 45 tours, bah, y en a un qui va être, qui est sorti en 67, en octobre 67, qui est le dernier donc sous le nom des Gollywogs et qui sera réédité sous le nom de Creedence Clearwater Revival en février 68. Et c'est le premier vinyle de Creedence. Là aussi, c'était leur label. Alors, ils étaient sur Fantasy, qui les avait refourgués sur un sous-label qui s'appelait Scorpio. Et Fantasy avait dit, bon, on vous reprend, mais il faut changer de nom et tout. Et donc, ils se sont rebaptisés Creedence Clearwater Revival. On parlera un jour du choix bizarre, enfin, du choix de ce nom bizarre. Et le même 45 tours, donc paru quelques mois plus tôt sous le nom de Gollywogs, va être réédité par Scorpio, mais cette fois sous le nom de Creedence. Et il y a un morceau qu'on retrouvera sur le premier album, c'est Porterville. Alors dans un nouvel enregistrement quand même sur le premier album. Mais là on va s'écouter la version single, donc enregistrée d'abord sous le nom de Gollywogs, puis sous le nom de Creedence, qui est le premier vinyle de Creedence, donc en 68. Voici le morceau Porterville. Et ça doit être... je sais plus où je l'ai foutu. Ici, là. Ah! You won't catch me going back down there alone. Things they said when I was young are quite enough to get me home. I don't care. They came and took my dad away to serve some time, but it was me that paid the debt he left behind. Folks said I was full of sin because I was the next of kin. We'll be right back. le premier 45 tours de Creedence Clearwater Revival, paru tout d'abord sous le nom des Gollywogs. C'était donc sous le nom de Creedence en février, je crois, février 68.
Ouais, ce qui était remarquable chez Creedence, c'est qu'ils étaient à contre-courant de leur époque. Hein. Ils n'étaient pas dans la mode hippie, ils n'étaient pas progressifs, ils étaient plutôt, en fait, leur nom, la partie revival de leur nom, annonçait le revival du rock'n'roll, mais c'était avant que le revival du rock'n'roll soit, du rock'n'roll des origines, soit à la mode. Et ils avaient un public, enfin du moins, des préoccupations qui étaient plutôt col bleu, quoi. Et c'était pas vraiment l'ambiance de la plupart des groupes de rock. C'est ce qui leur a valu beaucoup d'appréciation plus tard. Mais à leur époque, je sais pas si. Enfin, on les considérait comme commerciaux.
Oui, alors.
Et trop simples, enfin.
Y avait peut-être, oui, mais ça, c'était peut-être le regard des critiques.
De certains critiques, en tout cas.
Parce que, par contre, au niveau. Enfin, ils ont un succès public monstrueux.
Ah oui, ils ont vendu énormément de disques. Ils étaient le groupe numéro un en termes de vente à une époque. Oui.
Et ils ont eu des numéros qui se sont suivis, là, des 45 tours qui ont monté en haut des charts les uns après les autres. Sur une courte période, mais quand même, ça a été assez raz-de-marée. Quoi.
Mais ensuite, la critique a beaucoup réévalué Creedence. Ils ont dit, en fait, c'était un groupe qui parlait au peuple. C'était quand même bien.
Bah oui, et le peuple, du coup, il achetait les disques, ce qui paraît logique.
Mais, ça ne marche pas toujours.
Ça ne marche pas toujours, mais disons que c'est vrai que la combinaison de cette musique simple, mais quand même redoutablement efficace, avec des paroles... qui pouvaient parfois aborder des thèmes un peu durs, quoi, mais qui parlaient aussi aux gens et qui étaient des paroles abordables et pas complètement barrées. Ça marchait, quoi.
Non, mais il y avait eu des morceaux qui étaient très, comment dire, conscience sociale, comme Fortunate Son ou Don't Look Now.
Alors, il y a toute une théorie sur... parce que John Fogerty, au début, était quelqu'un de très, très timide, donc c'est son frère qui avait le leadership, son frère aîné, cela dit Tom. Alors, tout début. Et petit à petit, il a pris le dessus, disons. Après avoir fait l'armée, semble-t-il. C'est-à-dire qu'il a passé 6 mois Alors, il n'est pas allé au front, c'était déjà le Vietnam, mais il n'y est pas allé, mais si j'ai bien compris. Mais il a passé 6 mois à Fort Knox ou je sais pas où, à s'entraîner, à faire, tu sais, des trucs que tu fais à l'armée, qui sont passablement ennuyeux, fatigants, épuisants et nerveusement un peu difficiles parfois. Et c'est pendant ce temps-là qu'il a gambergé, qu'il a commencé à composer des morceaux, à inventer des textes, à se préparer finalement à devenir le leader d'un groupe, parce que c'était ça qu'il avait en lui, quoi. Donc ce serait à son retour de l'armée qu'il a pris le dessus sur son frangin. Et les Gollywogs, effectivement, ont changé à partir de 67, là, c'est devenu carrément autre chose. Et c'est devenu un groupe, on va les redécouvrir en même temps qu'on redécouvre Creedence, parce que les Gollywogs, on les connaît un peu moins. C'était un groupe quand même très intéressant, alors plus finalement dans une certaine norme un peu garage pop qui existait aux États-Unis à cette époque-là.
Et voilà. Et bien donc, Creedence Clearwater, c'est le groupe ultime des chemises de bûcheron à carreaux. Ambiance totalement différente avec Bad Company, qui est un super groupe fondé par des gens qui sortaient respectivement de Free et de Mott the Hoople et qui avaient gagné déjà plein d'argent. Sur leur deuxième album, Straight Shooter, on les voit représentés en croupier de casino, en costard, en roulette.
C'était chemise à jabot plutôt.
Voilà, complètement. Et donc, voilà. Mais on va les écouter quand même avec le morceau qui ouvrait cet album, Straight Shooter. Straight Shooter, qui s'appelle Good Lovin' Gone Bad.
It's all a man, I got my pride. I don't need no woman to hurt me inside. I need a love like any other. Yeah, so go on and leave me. Leave me for another. Good loving gone bad. Yeah, 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 yeah. Good loving gone bad, bad, bad. Good loving gone bad. Yeah. Baby, I'm a bad man now, now. Oh, yes. Yes, indeed.
Good loving gone bad. Il y a des gens qui ont dit que quand Paul Rogers est passé de Free à Bad Company, ça a été good music gone bad. Mais c'est vrai que ça avait un côté moins rugueux, authentique, blues et plus hard pour les masses. Mais il y a de bons morceaux de Bad Company assez réjouissants, je trouve.
Voilà, j'étais en train de chercher mon morceau suivant. Qui va faire un certain contraste avec ce qu'on vient de s'écouter ces derniers temps. Il s'agit de Popera Cosmic.
Oh là. Je sens venir le plan, je sais pas, la Sonra.
Pas du tout, enfin non. Pas trop. Disons que c'est beaucoup plus court que Sonra, mais
c'est déjà ça.
C'est cosmique, effectivement. C'est entre cosmique et comique, quoi, tu vois. C'est comme le nom du groupe le laisse supposer. Attention, là-dedans, il n'y avait pas n'importe qui. Il y avait Guy Skornick. Merde.
Ah, Guy Skornick.
Guy Skornick, oui. Ouais, qui a écrit des tonnes de chansons pour tout le monde. Jonas, Michel Delpech, j'ai noté. Musique de film, des génériques télé, etc. Il y a François Wertheimer, qui est connu pour avoir écrit pour Barbara, par exemple.
Oui, puis tous les deux ont sorti des disques sous leur nom. Hein.
Voilà. Oui, aussi, bien sûr. Oui. Et puis, William Scheller. Qui était aux arrangements là, notamment de ce morceau. Alors c'est un groupe qui a eu une existence assez brève, semble-t-il. Il y a un album qui s'appelle Les Esclaves en 69, et on va s'écouter le morceau qui s'appelle LSD. C'est le genre de conneries que tu trouves quand tu cherches sur les 60s françaises, tu vois. Tu tombes sur des trucs totalement barrés quand même. J'avoue que j'en redécouvre tous les jours.
Ça, tu m'apprends hein, que ces trois-là avaient collaboré sur.
Eh oui, bah voilà. Ouais. Mais rien que le nom déjà, tu vois, ça donne envie d'écouter quand même. Popera Cosmic, donc le morceau LSD. C'est un instrumental.
Ha ha ha!
Oui, voilà, bon, c'est pas trop Sandra, c'est peut-être plus, je sais pas, les Beatles de leur époque psychédélique. Une petite connerie appelée LSD, donc, par Popera Cosmique en 1969, tirée de l'album Les Esclaves.
Eh bien, écoute, oui, on va continuer dans les choses un petit peu inhabituelles. On revient avec Diana Express, un groupe bulgare des années 70, qui faisait du rock courageux, un peu moins commercial que Shtourcité, qui était le groupe de rock très connu depuis les années 60 en Bulgarie. Shtourcité, ça veut dire les criquets. Oui. Ils n'étaient pas allés chercher loin pour leur nom. Et donc on va s'écouter Kakvo neti dostiga.
Ah oui.
Voilà. C'est traduit par What doesn't suffice you. Diana Express.
От мен и морето и светлата вечер угасне небето. Замина поднесен е златен звездопад. Отплуваха с тебе дните весели.
Кажи ми какво
Ouais, un côté hypnotique, là. Mm-hmm. Pas mal.
Oui, oui, oui.
Oui. Eh bien, on revient au Hollywood Brats.
Ah, avec la reprise.
Pas encore.
Ah, alors tu nous fais mariner.
Mais oui, avec l'album Whatever Happened to Hollywood Brats. C'était leur deuxième album, en fait, qui lui aussi est enregistré en 80, mais n'est sorti qu'en 86. Et aussi en Scandinavie, semble-t-il, d'abord, et peut-être après ailleurs. Mais alors, celui-là, par contre, est beaucoup moins réussi. Alors, il y avait plus ou moins, enfin, en tout cas, les deux leaders du groupe, Casino Steel et Andrew Matson. D'ailleurs, il faut signaler que quand l'album, le premier album des Hollywood Brats est sorti en Scandinavie, c'était sous le nom de Andrew Matson and the Hollywood Brats. C'est le chanteur. Et donc, la paire Casino Steel et Andrew Matson se retrouvera ensuite dans The Boys. Je pense qu'ils étaient là hein, sur ce deuxième album. Les autres, je ne suis pas sûr. C'est peut-être plus tout à fait le même line-up. Je ne sais plus trop. L'album, en tout cas, est beaucoup moins bon. Mais j'ai tiré un morceau quand même pour satisfaire la curiosité de nos auditeurs. Ça s'appelle She's Got Class. C'est eux qui faisaient donc Sick of You tout à l'heure. C'est pas du même tonneau quand même. Hein. C'est en 1980.
Sick on You.
Sick on you, oui. Qu'est-ce que j'ai
sick
dit
on you, t'as dit Sick of You qui est avant ce Stooges.
Oui, pardon.
Mais Sick on You, ça donne plutôt l'idée qu'on te vomit dessus, quoi.
Oui, c'était la poésie un peu trash des Hollywood Brats. Ils étaient beaucoup plus calmes sur ce deuxième album. She's Got Class, c'est un des morceaux quand même tout à fait respectable de ce disque. Les Hollywood Brats, donc, en 1980.
Class. Yeah, she got class.
She's got class. Fuck off, disent les autres. C'est Télé Hollywood Brats en 1980, donc. Album sorti en 86 sous le nom de Whatever Happened to the Hollywood Brats, mais qu'on recommande quand même beaucoup moins que le premier, celui des années 70.
Eh bien, écoute, 1980 aussi, et quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de classe, Kevin Ayers. Mmh. Kevin Ayers qui est, avait une carrière qui commençait quand même à baisser un peu à cette époque-là, et qui nous sort un album avec une couverture toute rose, ou presque toute rose, dominante rose, avec un superbe divan en forme de bouche bien pulpeuse, à la façon Salvador Dali. Hein, je pense que c'est Salvador Dali qui a été le premier à faire un divan comme ça. Donc l'album s'appelle « That's What You Get ». Et c'est un petit peu dans le genre, ben voilà, ça y est, c'est mon disque, hein, c'est point barre. Et donc on va s'écouter le morceau qui donne son titre à l'album, That's What You Get.
Signalons que quand même sur le divan, enfin vautré à moitié par terre et à moitié sur le divan, il y a une jeune femme,
courvêtue,
un verre à la main, courvêtue, avec une bouteille renversée qui m'a l'air complètement dans les choux.
Oui, oui, ambiance débauche, n'est-ce pas?
Oui.
Bon, que ça. Voulez-vous? C'est le rock'n'roll.
That have started to rust. One more battle fought in the name of love. Tears and blood splattered over the wall. Broken bits and pieces up and down the hall. Take them up to bed, stick them all together again.
Kevin Ayers, en 1980 aussi.
Voilà, 80. Il y avait Holy All Souls sur ce disque quand même, quelque part.
J'étais un peu inquiet au début du morceau, mais après, effectivement,
oui.
Ça démarre, c'est plutôt pas mal.
Ça, ouais. ça a remonté le niveau après, ouais.
Oui, bon,
et puis il y a la voix de Kevin Ayers, voilà, toujours ce côté-là, de clin d'œil permanent. Enfin.
Oui, et puis ces mélodies, toujours quand même, accrocheuses. Petite rubrique. Like a rolling stone, like the FBI and the CIA and the BBC, BB King and Doris Day.
By Georgie Wood. And now we'd like to do Are the Angels Come?
Eh oui.
Alors c'est un coup de la CIA, qu'est-ce qui se passe là? On est saboté.
Et voilà, c'était notre petit mix psychédélique en façon popéra cosmique entre Kevin Ayers et le jingle Dig It. Donc ce sera un morceau qu'on a passé à Dig It il y a bien longtemps dans l'émission Dig It auquel on rend hommage tous les dimanches. La grande sœur des bébés dinosaures. Et ce morceau, il est dû aux Gollywogs. Les Gollywogs.
Ah, on a passé les Gollywogs à Dig It.
Ah oui, oui, oui. En tout cas, ce morceau-là, je ne me souviens plus si on en a passé beaucoup d'autres. Les Gollywogs, donc, c'était Creedence, hein, sous leur deuxième incarnation. Avant, c'était donc Tommy Fogerty and the Blue Velvets. Et puis, quelques années plus tard, ils ont fait 2-3 45 tours sous ce nom-là. Puis, ils sont devenus les Gollywogs. Et ils ont sorti des 45 tours à partir de 65, je crois, quelque chose comme ça. Et il y a un morceau quand même qui a eu un certain succès, à tel point qu'il a été repris la même année, donc il est sorti en 66. Il a été repris la même année par au moins deux groupes. Il y en a un dont j'ai oublié le nom, je sais plus. On s'écoutera sûrement un de ces quatre. Et les autres, c'est les Fantastic DJs, qui deviendront les Swamp Rats ensuite.
Ah.
Et oui, c'est un trio, les Fantastic DJs. Il y en a deux qui ensuite formeront les Swamp Rats. Et c'est un groupe qui déjà avait là aussi une certaine popularité, Fantastic DJs. Donc, nos amis Gollywogs ont sorti ce morceau qui s'appelait Fight Fire, et qu'on retrouve aussi sur Nuggets par exemple. Donc, rangé dans la catégorie garage quoi. Hein. Et effectivement, tu vas voir, hein, c'est du garage. Pas le plus velu qui existait à l'époque, mais du garage quand même. Alors signalons que les Gollywogs, bien sûr, par la suite ont été réédités. Il y a une compilation qui réédite tous les singles des Gollywogs, l'intégrale, entre donc 65 et 67. Et ça fait quand même, je sais plus, 7 singles, un truc comme ça. Et il y a des bons morceaux, il y en a des très bons. Il n'y a pas que ce Fight Fire, on en écoutera d'autres tout au long de cette année, Creedence donc. Mais ce soir, j'aurais été content parce que c'était non seulement un fan de garage ultime, mais c'était aussi un grand fan de Creedence. Alors tu comprends bien que les Gollywogs, on ne pouvait pas les éviter.
Rappelons-nous que Gilda est l'inventeur de l'expression « c'est jeudi, c'est Fogerty ».
Et voilà, et nous, c'est dimanche, c'est Creedence. Oui, bon, on n'a pas pu faire mieux. C'est pas Creedence, mais presque, c'est les Gollywogs. Si ça veut bien démarrer. Oh punaise!
Yeah.
Fight Fire, donc c'est les Gollywogs, qui était donc le groupe pré-Creedence, on va dire ça comme ça.
Les Gollywogs, est-ce que tu sais ce que veut dire Gollywog?
Je crois que c'est un personnage en fait de conte enfantin, enfin de, qui est un personnage tout noir, qui a des cheveux crépus. Mmh. Je ne sais pas si c'est un gentil ou un méchant, ou que c'est pas un personnage en tout cas qu'on connaît par chez nous, mais c'est typique de certains contes américains, si j'ai bien compris.
Ah, d'accord, oui. C'est ces espèces de poupées qui sont des caricatures de gens noirs. Et apparemment, maintenant, c'est aussi sacrilège que les blackface.
Bah, j'imagine, oui. À l'époque, visiblement, ça choquait personne. En tout cas, pas la compagnie de disques, ni le groupe, sans doute. Voilà. Mais le fait est que ça sonne mieux que Tommy Fogerty and the Blue Velvets, mais bon.
Ouais, mais moins bien que Creedence Clearwater Revival,
ah, c'est sûr,
que tu
c'est
nous
sûr.
Expliqueras plus tard.
Voilà.
Eh ben, donc maintenant on a un groupe français qui avait choisi le nom de Blues Convention. Bon, ça, ils prenaient pas trop de risques. Et ils n'ont pas duré très longtemps, mais ils ont eu le temps de faire les 45 tours. Et notre 45 tours pourri ce soir, c'est la face B de leur morceau L'Aveugle. L'Aveugle, on l'a déjà passé. C'était pas mal. La face B s'appelle God is just a legend. Et c'est défendable aussi. I've seen the children dying. Chanteur des Blues Convention était très influencé par Roger Chapman, chanteur de Family.
Oui, oui, oui. Oh, c'est pas mal, oui, effectivement. Mais là, on va changer de registre, là, quand même. et revenir à David Peel.
Ah oui.
Qu'on a écouté avec son album de 70, là, son deuxième, The American Revolution. Mais là, on va le retrouver. Alors, j'ai mis la main sur l'album qu'il a fait, produit par John Lennon. Vous n'y échapperez pas, c'est gratiné. Et puis, j'ai mis la main sur autre chose plus tardif. Le disque qu'il a fait notamment avec le groupe Death, enfin, c'est en tout cas David Peel and Death. A priori, ça n'a rien à voir avec le groupe de Detroit du même nom qui s'appelait Death, mais j'étais incapable de retrouver le nom des musiciens qui jouent sur ce disque. Aucune info, enfin, en tout cas, j'en ai pas trouvé. Cet album est sorti en 78. Il s'appelle King of Punk. Alors, effectivement, on disait que l'album 70, il y avait un côté proto-punk. Ben, en 78, alors c'est du punk, mais alors du punk avec des guitares, la MC5, tu vois. Comment dire ? Il paraît qu'il aurait collaboré avec Wayne Kramer. Certains disent que Wayne Kramer aurait joué sur ce disque. C'est un petit peu comme l'histoire de DJ Allin. Tu sais, DJ Allin a sorti un album, le double sur New Rose, et on dit que c'est Wayne Kramer qui joue dessus. Mais c'est un peu le même genre de choses, figure-toi, parce que David Peel a été un des mentors de J.J. Allin. J.J. Allin a joué de la batterie sur un morceau de David Peel. David Peel, il a repris un morceau de David Peel. Et David Peel est impliqué d'une manière ou d'une autre dans la production d'un des tout premiers J.J. Allin. Visiblement, c'était une des idoles de J.J. Allin. Et quand on écoute ce disque King of Punk, on reconnaît effectivement quelque part ce que J.J. Allin peut faire dans ce double album New Rose, là, tu vois. Pas ses trucs les plus hardcore, hein, bien sûr, mais ses morceaux un peu longs, pleins de grosses guitares, bien velues, pleins de gros mots, bien sûr, et de paroles complètement déjantées. Donc le David Peel de l'époque King of Punk, c'est quelque chose. Alors les paroles de King of Punk, c'est un long morceau, hein, je vous préviens. Alors les paroles, en gros, c'est « Fuck the Sex Pistols, fuck the Ramones, fuck Talking Heads, le King of Punk, c'est moi », en gros, quoi. David Peel, donc, en 78, sur cet album qui a été réédité il n'y a pas très longtemps, là, qui peut-être traîne encore dans les bacs, en tout cas, j'espère pour vous, qui s'appelait « King of Punk », donc. Et c'est le morceau qui donne son titre à l'album.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. I'm the king of punk on the streets of the lower east, suicide.
Suicide.
I'm the king of punk on the streets of the lower east, homicide. I'm the king of punk from the lower east, suicide. I'm the king of punk from the streets of the lower east side. Fuck you, Patsy Smith. Fuck you, New York Dolls. Fuck you, television. Fuck you, Tough Box. Fuck you, McKenzie. Fuck you, Ramones! Fuck you, Randy! Fuck you, Dictated! Fuck you, I'll go home! I'm the king of punk on the streets of the lower east, homicide! I'm the king of punk on the streets of the lower east, suicide! I'm the king of punk on the streets of the lower east, homicide! But we were bone middle class, go home. Super jock, super cock, never getting stoned. Go beat the beat with the pump on the lower Bowery. CBGB, Texas, Kansas City. Not a male, bullshit, living so unreal. What you think you are, you think you're superstar. Go home, get drunk, punk at the bar. The streets of the lower east, homicide. Fuck you, Patsy Smith. Fuck you, New York Dolls. Fuck you, CBGB.
from the streets of the Lower East Side. If you wanna be a punk, go live on the streets. Don't go middle class, be what you need. What you need is a punk, punky, looking like you wanna make a little bit of money. Your rock sucks like the people that you fuck. The music that abuses everything you gotta say. You are America in decay. You're the punk that fucks the suck from the Lower East Side. If you wanna be a punk, sing on the streets. Power to the people singing on the streets. Power to the people singing on the streets. Power to the people singing on the streets. Greasy leather jacket, faggots home with the Ramones. Everything you think is cool when you're a stone. Punk, go punk, you nothing else to do but give a fuck up. Fuck you, pussy snitch. Fuck you, you're a ghost. Fuck you, milky cookies. Fuck you, tough nuts. Fuck you, sick head. Fuck you, pages. Fuck you, bakers. Fuck you, husband and the quips. I'm the king of punk from the streets of the Lower East Side. Suicide,
suicide.
From the streets of the Lower East Homicide. Oh, the king of punk from the Lower East Suicide.
Suicide.
I'm the king of punk from the streets of the Lower East Side. Fuck you fucking bastard phony punks. Why don't you all go back home with your plastic parents?
Power to the people singing in the streets. If you wanna be punk, go sing in the streets. Et oui, bah, c'était un spécialiste, lui, pour se poser au coin de rue là, et puis pousser ses braillantes
voilà.
Pour la légalisation de la marijuana, etc.
Et dans le Lower East Side, l'endroit où il y avait le Bowery et donc le CBGB's.
Fuck et, CBGB's.
Et Avenue A. Malheureusement, c'est devenu maintenant des endroits, je crois, très propres et très bourgeois.
Ah bah,
alors que
oui.
Dans les années 70, c'était encore crado, avec des prostituées, des endroits où tu voulais pas trop aller le soir. Enfin, ça avait une mauvaise réputation.
Alors, c'était son quartier, le Lower East Side, bien sûr, qui rebaptisait là, le Lower East Suicide, Lower East Homicide, etc. C'était donc David Peel en 1978, le morceau King of Punk sur l'album du même nom que je vous recommande chaudement.
Eh bien, qu'est-ce qu'on va s'écouter ? Geronimo ! Bon, je vous rassure, c'est pas un indien. C'est un groupe hollandais. Il y avait beaucoup de groupes hollandais dans les années 60 et 70.
C'est elle là, Geronimo ?
Non, ça c'est Geronimette.
Superbe pochette, hein.
Oui, je vois que tu es fasciné. Elle a les cheveux légèrement roses,
oui.
Parce que la, c'est une, bon, c'est la cover girl d'une compile du label Pink Elephant. Et le label Pink Elephant, c'était le label de
Shocking Blue.
Évidemment. Et donc la compile s'appelle Never Marry a Pink Elephant. Il y a bien sûr dessus la chanson Never Marry a Railroad Man, qui était une des premiers succès de Shocking Blue. Et plein d'autres groupes, donc, de ce qu'on appelait à l'époque le Netherbeat. Et donc, Geronimo, voilà, avec un morceau qui s'appelle Hands. Hands, Geronimo, donc un groupe hollandais du début des années 70, ça doit être vers 1970, et sur une compile qui s'appelle Never Marry a Pink Elephant, avec 4 morceaux de Shocking Blue et puis une petite sélection d'autres morceaux d'autres groupes hollandais moins connus. On aurait dû avoir à la fin de l'émission la rubrique fromage de chèvre, mais j'ai oublié le disque à la maison. Donc, tant pis, on va passer du Mama Beat et Kelski, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec le fromage de chèvre. Même si elle commentait en concert que quand on était en tournée, on mange comme une vache. Ce sont ces mots verbatim. On va s'écouter La Folle version remixée en 78 ou je sais plus quoi, d'un morceau sorti en 76 sur son premier album qui devait peut-être s'appeler comme ça d'ailleurs. En tout cas, voilà Mama Béa Tekelski, rockeuse française qui n'a pas eu autant de célébrité que d'autres, mais qui a bossé longtemps et patiemment. Sur son album Visage, donc un album sorti en 77 ou 18 de... ou 19 79, allez, c'est mon dernier prix de remix de morceaux de ses deux premiers albums, si je me souviens bien. Alors c'est le vinyle numéro 2.
Arrive toujours avant elle, comme un sinistre messager. Toute la ville la connaît, depuis le temps qu'elle parcourt. Dans tous les sens, par tous les temps, et la campagne environnante. Et le moindre pavé de rue, petit pas sec, martelé. De sa démarche saccadée, sans souci du temps ni de l'air. La folle, la folle, la folle, la folle, la folle, la folle. Oh, miroir, de l'autre côté d'un miroir. son œil qui ne voit plus, qui nous range au nez des ombres. Quelle blessure fulgurante a mis ce rideau entre nous. Sur quelle rive sommes-nous? Et d'abord, sommes-nous vraiment? Sur quelle rive sommes-nous? Et d'abord, sommes-nous vraiment? Nous qui ne pouvons plus l'atteindre, nous qui ne pouvons plus l'atteindre.
Mama Bea Tekelsky, ou Mama Bea tout court, hein, parce que elle n'utilisait pas forcément beaucoup son nom de famille. Sur l'album, la version qui est sur l'album Visage. Alors d'habitude on se termine par des choses un peu calmes pour vous faire dormir sur vos deux oreilles pour la nuit avant de reprendre le boulot le lundi matin. Là je veux dire que c'est un peu raté avec Mama Bea. Mais, ma foi, ça vaut toujours le coup de redécouvrir des choses comme ce qu'elle a fait. Et, bon, moi, je devais redécouvrir le fait que, quelque part, Je dois vous... Si je n'ai pas pu vous passer le jingle fromage de chèvre, puisque je n'avais pas de disque fromage de chèvre, je dois vous passer quelque part le jingle de fin d'émission. Parce que les bébés dinosaures, c'est terminé. C'est même, on a dépassé notre temps. Normalement, on fait une heure et demie et pas plus. Là, c'est plutôt 1h35. Et je vous rappelle que les bébés dinosaures, c'est de 21h30 jusqu'à 23h sur le 92.2 MHz de Canal Sud dans la région toulousaine, tous les dimanches soirs. Et si vous ne pouvez pas nous choper les dimanches soirs, on est rediffusé 8 jours plus tard, les lundis de 15h30 à 17h. À part ça, vous pouvez aussi récupérer les MP3 de l'émission en téléchargement, en streaming, tout ce que vous voulez. C'est gratuit, c'est sur le site de la radio www.canalsud.net, sur lequel vous avez aussi moyen d'écouter en direct en streaming toutes les émissions de la grille, comme par exemple Scream for Me Toulouse qui est le lundi soir, ou La Foire et Ténèbres qui nous a précédé, alors comme c'est en partie les mêmes animateurs. Je les confonds, mais vous pouvez aussi écouter toutes sortes de choses. Je sais pas, Le Monde Khmer le samedi matin à 8h, si vous êtes matinal le samedi, et si vous parlez cambodgien. Non, pas forcément, bien sûr, il n'y a pas que du cambodgien dans Le Monde Khmer, même si c'est le sujet du truc, et il y a plein d'autres choses. Et on va donc se quitter. Et, par exemple, le dimanche soir avant nous, il y a Canal SF une fois par mois, La Foire et Ténèbres deux fois par mois, si mes souvenirs sont bons. Et avant eux, à 18h, à 18h30, pardon, je regarde ma grille, il y a Black Connection avec notre ami Fred, que vous pouvez écouter 18h30 à 20h sur 92.2 MHz de Canal Sud, donc ce ne sont que des exemples. Allez sur www.canalsud.net pour découvrir toute la grille, pour découvrir les archives sonores, les 500 émissions anciennes des bébés dinosaures qui y traînent, et bien d'autres choses encore. Et en attendant, par contre, là, on va vous laisser avec l'ordinateur d'animation qui va s'efforcer de vous trouver de la musique pour toute la nuit. Il est sympa, il le fait pour vous.
Come back. Yeah, that's right. Tell him to come back.
I'll come back.